Réplique, l'art, la culture et le temps qui passe, avec Laure Adler et Cécile Guilbert. Reconfinement oblige, cette émission a lieu en direct et je suis tout seul dans le studio de Réplique. Seul, mais pas abandonné. Mes deux invités, Cécile Guilbert, qui publie sous le titre « Roue libre », un recueil de chroniques paru dans La Croix de septembre 2017 à septembre 2019, et Laure Adler, auteur d'un livre sur la vieillesse, « La voyageuse de nuit », sont, comme on dit aujourd'hui, en distanciel. Je croise les doigts pour que ce dialogue sans visage se déroule sans encombre et ma première question portera sur un thème qui ne figure dans aucun de ses ouvrages car elle a surgi après leur rédaction. Mais portant sur notre rapport à l'art, il ne peut qu'intéresser Cécile Guilbert et je suis très curieux de la réponse que lui donnera l'ancienne directrice de France Culture. Voici donc ma question. Il y a quelques semaines, paraissait dans Le Monde un appel signé notamment par Annie Ernaux, Michel Perrault, Edgar Morin, Michel Onfray et tout un bataillon de ministres de la Culture, appel qui demandait au président de la République de faire entrer au Panthéon Verlaine et Rimbaud ensemble. Que pensez-vous de cette initiative, Cécile Guilbert?
Alors, j'ai reçu cette pétition avant qu'elle soit publiée, puisque un des initiateurs de cette pétition m'a demandé si je voulais me joindre à eux. J'ai répondu non, et pour plusieurs raisons. La première raison, qui va vous paraître peut-être un peu, pas frivole, mais qui pourra peut-être paraître frivole à certains auditeurs, c'est que d'abord j'ai trouvé que cette pétition était atrocement mal rédigée, et déjà ça ne m'engageait pas très bien à la signer, bon, et j'ai trouvé que les arguments étaient plutôt faibles, et la liste des signataires, d'ailleurs, qui était jointe, et dont les promoteurs de cette pétition s'enorgueillissaient, puisqu'il y avait un certain nombre d'anciens ministres de la Culture, ne m'a pas semblé d'un poids non plus très fort, parce que j'ai trouvé aussi que cette pétition était assez idéologique, en fait. Alors, moi, je refusais de la signer, parce que, d'une part, je trouvais que Verlaine et Rimbaud, bon, déjà, il y avait une différence de, si vous voulez, de calibre littéraire et artistique entre Verlaine et Rimbaud. Je trouvais que c'était grotesque de faire rentrer ce couple, et surtout, bon, parce que tout suintait en fait une sorte d'idéologie communautariste qui me semble pas devoir avoir sa place au Panthéon. Alors, j'ai bien entendu l'argument selon lequel il y avait de très grands écrivains au Panthéon. Mais ces grands écrivains, me semble-t-il, sont au Panthéon pour d'autres raisons que leur talent ou leur littéraire ou leur art littéraire. Ils sont au Panthéon parce qu'ils ont pris fait et cause pour un certain nombre de causes sur les problèmes politiques. Hein. Quand on parle de Rousseau, quand on parle de Hugo, c'est des gens qui se sont battus ou qui ont écrit sur des points politiques, idéologiques, des droits de l'homme, la peine de mort, enfin qui ont pris place dans un combat contre pour un certain nombre de choses, alors que c'est évidemment le cas complètement inverse de Rimbaud. Et je suis d'ailleurs pas non plus favorable à ceux qui refusent cette entrée au Panthéon sous prétexte que Rimbaud aurait eu un certain nombre d'attitudes dans sa vie, parce que je pense qu'il faut vraiment dissocier l'existence des artistes aussi de leurs écrits. Donc si vous voulez, il y avait une sorte de mélange des genres, c'est le cas de le dire, qui ne semblait pas de nature à rendre cette entrée au Panthéon.
Laure Adler, quelle est votre réaction? Quelle a été votre réaction quand vous avez lu cet appel?
Écoutez, je pense qu'il y a des choses plus graves qui se déroulent en ce moment, en France et dans le monde, pour s'obstiner à s'intéresser à cette éventuelle panthéonisation. Je trouve ça vraiment très très étrange. Je comprends peut-être l'initiative de certains et de certaines, dont des grands amoureux de Rimbaud et de Verlaine dont je suis, mais je trouve ça extrêmement déplacé aujourd'hui. Je rejoins, et puis il y a quelque chose que je trouve terriblement déplacé aussi, et là, je voudrais bien que mes propos ne soient pas mal interprétés. Je trouve que ce côté un pour deux, une panthénisation pour deux, je trouve ça mais vraiment pathétique, comme si, comme vient de le dire Cécile Guilbert, comme si Rimbaud à lui tout seul ou Verlaine à lui tout seul ne représentait pas un univers, une langue, un rapport au monde, un changement de civilisation. Alors là, les mettre tous les deux d'un seul coup sous prétexte qu'ils se sont aimés à un moment de leur existence, je trouve que l'idée est détestable, vraiment détestable.
D'accord.
D'autre part, je trouve que la panthéonisation, bon, c'est quelque chose qui est très important sur le plan symbolique, sur le plan du récit national français, qui fait-on entrer au Panthéon ? Mais je trouve que ces derniers temps, ce sont des personnalités politiques qui se sont singularisées par la résistance, par leur courage individuel. Je trouve que cette manière d'enflammer l'opinion culturelle sur cette double panthéonisation, franchement, je trouve ça plus qu'étrange.
Oui, alors vous dites, Laure Adler, qu'il y a des choses plus graves. C'est vrai. D'un autre côté, l'hommage que la nation peut rendre à un certain nombre de grands personnages, c'est important pour son histoire, c'est important pour son actualité. Et dire que des grands écrivains peuvent, à ce titre, entrer au Panthéon, personnellement, ça ne me choque pas, même si il s'agit plutôt d'y faire entrer des grands hommes, et que le grand écrivain, le grand homme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais personnellement, ce qui m'a choqué, et ce qui m'a poussé à vous poser la question, parce que je crois que tout cela est important, ce qui m'a choqué, c'est la légitimation, la justification donnée par les signataires, ou du moins par les auteurs de l'appel, à cette panthéonisation. Ils disent que Verlaine et Rimbaud ont enrichi par le génie notre patrimoine. Ils sont aussi deux symboles de la diversité. Ils durent endurer l'homophobie implacable de leur époque. Ils sont les Oscar Wilde français. Donc là, tout d'un coup, on a affaire à autre chose que l'art, autre chose qu'à les grands hommes. On a affaire à une sorte de réhabilitation d'une minorité opprimée. Comme si la culture changeait de sens. Ricoeur disait « Nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. À l'ère du multiculturalisme, la culture, c'est une déclaration d'identité, c'est la manifestation pour chaque communauté de son être propre, d'où en effet l'idée étrange de faire entrer ce couple au Panthéon. » Ce couple, parce qu'en effet, oui, il y a eu le Pâques, il y a eu le mariage gay. C'est dans ce contexte que Verlaine et Rimbaud sont panthéonisés. C'est aussi de cette manière qu'a été interprétée la panthéonisation d'Alexandre Dumas, puisque le monde avait été, avec Alexandre Dumas, le métissage entre au Panthéon. Non pas donc le chevalier de Maison Rouge, le comte de Monte Cristo ou les Trois Mousquetaires, mais le métissage, c'est là, me semble-t-il, la mise sur pied d'une définition de la culture qui va à l'encontre de ce que la culture a représenté longtemps, c'est-à-dire l'élucidation de l'existence, la vie avec la pensée. Cécile Guilbert.
Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, en rabattant Verlaine et Rimbaud sur leur homosexualité ou en rabattant Dumas sur le fait qu'il était métis, si vous voulez, on rabat sur une identité. Et en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'on panthéonise des êtres qui ont peut-être produit un certain nombre de discours ou d'œuvres en rapport avec ces questions plutôt qu'en fonction de ce qu'ils sont eux. De toute façon, ça prouve que la culture est complètement infestée en fait de questions. C'est pour ça que moi j'ai laissé une grande place dans mon roue libre, si vous voulez, à cette question de l'art contre la culture, parce qu'en fait la culture est devenue une sorte de gloubi-boulga purement idéologique où tout toutes les questions politiques. C'est-à-dire que dans l'art, c'est pareil dans l'art. C'est-à-dire que dans l'art, en fait, les artistes, la plupart des artistes d'aujourd'hui qu'on appelle contemporains sont des activistes politiques qui essayent de défendre des causes, de mettre soi-disant en concept un certain nombre de questions qui ne sont pas des questions de l'art, selon moi. Hein, mais bon, c'est évidemment, on peut en discuter à l'infini. Il y a une idéologie dans la littérature aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la société a pris la main sur absolument toutes les sphères de l'existence et la culture est cette espèce d'enrobage qui permet à toutes ces questions sociales et idéologiques de se légitimer constamment dans tous les champs. Voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, Laura Adler ?
Non, pas tout à fait.
Ah,
je trouve que la culture et l'art ne sont pas des bulles complètement autonomes où l'air du temps ne peut pas pénétrer. Par définition, l'essence même de la culture et l'essence même de l'art se trouve revivifiée en permanence parce que nous vivons dans l'instantanéité du présent ou dans la remémoration du passé. C'est un élan, c'est une vitalité, c'est une énergie traversée par tous ces vents, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient mauvais. Donc on ne peut pas imaginer une culture ou un art complètement séparé du contexte économique, géopolitique, philosophique, etc. Donc, pour en revenir à la panthéonisation, si l'intention première des initiateurs de cette pétition, c'était de mieux faire accepter dans la collectivité mentale française l'idée que l'homosexualité était une manière de vivre pleine et entière, alors, effectivement, cette pétition peut-être avait un sens, parce que l'homosexualité reste une manière de vivre, malgré les avancées dont vous avez parlé, qui demeure très difficile. Et je pense que tous les signes qui peuvent être donnés pour pouvoir la rendre légitime et naturelle sont des signes à prendre et peut-être même à arracher. Mais je ne crois pas d'ailleurs que serait provoqué ce sentiment-là. Mais si c'était pour donner un sentiment de fierté et de possibilité de vivre avec fierté et dignité son homosexualité, je trouve que ça serait formidable. Maintenant, je trouve que par rapport à Dumas, le signe donné, pourquoi pas ? On vit dans un monde qui se pénètre de toutes ces influences. Je suis d'accord avec Cécile Guibert quand elle dit que la culture est devenue une sorte de boulgui-boulga, pour reprendre sa belle expression, mais en même temps, dans ce boulgui-boulga, eh bien, il y a des intellectuels qui pensent, il y a des artistes qui nous disent des choses. Je vais vous donner un exemple très concret. En ce moment même, on le voit à cause du deuxième confinement, il y a des tas d'artistes qui, chez eux, nous livrent leur rapport au monde, leur rapport à l'espace, à partir de l'actualité qu'ils vivent. Quand je vois les nouveaux dessins d'Annette Messager sur le coronavirus, je me dis, l'actualité, elle pénètre son cœur, son âme, et l'actualité la rend créative.
Oui.
Et c'est comme ça dans toutes les autres disciplines.
Oui.
Quand je lis le livre de Jean-Luc Nancy qui paraît ces jours-ci chez Bayard sur le coronavirus pour essayer de penser notre nouveau rapport au monde, je me dis, la société, elle pénètre dans le cœur de la philosophie.
Donc,
pourquoi s'en inquiéter ?
Bien sûr, Laura Adler, mais c'est pas ça le sujet de l'inquiétude. Le sujet de l'inquiétude, c'est parfois l'art se met au service de l'idéologie. Il est enrôlé, inféodé. Le livre de Philippe Roth, La Tâche, était un livre très actuel et en même temps en rupture avec l'esprit du temps. Le problème, c'est ça, c'est quel est le rapport de l'art et de l'esprit du temps. Mais je vais laisser parler Cécile Guibert.
D'accord avec Laura Adler, tout artiste, il ne s'agit pas de penser l'art dans une espèce de sphère séparée qui serait une tour d'ivoire, qui n'aurait plus aucune prise avec son époque ou son temps, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, l'artiste est toujours, d'une certaine façon, un produit de son temps. Il vit dans une histoire, une société, pour s'y opposer ou s'y conformer. Ce que je veux dire, c'est que tout en étant le produit de son temps, l'art est quelque chose qui est toujours minoritaire. Sinon ce serait pas de l'art. Et donc, ce que j'interroge, et je pense qu'il faut faut toujours garder évidemment le sens des nuances, il faut pouvoir discerner, il faut pouvoir c'est justement ce qui est si difficile aujourd'hui dans ce brouhaha, dans cette polarisation des débats. Ce que j'essaye de sauver, c'est la spécificité de l'art. Quelque chose qui est sensible, bien sûr.
Alors, la spécificité de l'art, alors, cela m'invite à vous poser une autre question. L'Académie des Oscars, sous le choc de l'affaire Weinstein et de l'assassinat de George Floyd, a présenté le 8 septembre une nouvelle liste de critères d'éligibilité à la catégorie de meilleur film. Pour recevoir le tampon de la diversité à l'écran, une œuvre devra remplir l'une ou l'autre de ces trois exigences. Un rôle principal ou un rôle secondaire important provenant d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté. Au moins 30% des rôles secondaires provenant de deux groupes sous-représentés. Et troisième critère, l'intrigue principale, le thème ou le récit axé sur un groupe sous-représenté. Et il y a peu de temps, le président du CSA a dit qu'il fallait améliorer la représentation de la diversité des minorités dans les films, dans les créations audiovisuelles, ce qui est bien, mais vous, là où je suis inquiet, pour l'art, c'est que précisément, la liberté de création est entravée, c'est-à-dire les auteurs ne sont pas libres d'imaginer ce qu'ils veulent, et leurs personnages ne sont pas libres non plus. Parce qu'un représentant d'une minorité, pour vaincre les préjugés contre les homosexuels, les préjugés contre les Noirs, contre les Latinos aux États-Unis, contre les femmes, eh bien, il doit être forcément positif. Donc, en guise d'art, un nouveau réalisme socialiste risque de s'instaurer et avec les meilleures intentions. C'est cela qui m'inquiète. Ce n'est donc pas la présence de l'actualité dans les œuvres, c'est la surveillance des œuvres par l'idéologie, le politiquement correct, la bien-pensance. Laura Adler.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Ah, je m'étonne pas.
Pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que le président du CSA a raison de souligner l'absence de représentativité des différentes communautés vivant en France. Il suffit de regarder des films à la télévision ou même d'aller beaucoup au cinéma pour savoir et comprendre qu'on vit dans un pays white, WASP, blanc, uniquement représenté par une unique classe sociale et une unique couleur de peau. C'est un vieux serpent de mer qui court depuis au moins une trentaine d'années. Le CSA déjà se battait il y a une trentaine d'années pour que la vie, notre vie de nous Français, de cette communauté diverse que nous formons, nous Français, soit aussi représentée dans ce qu'on appelle l'imaginaire collectif, c'est-à-dire ce qu'on voit au cinéma ou à la télévision.
Laura Adler, c'est quand même Les Misérables qui a obtenu le César du meilleur film en 2020.
Oui, c'est une exception et je m'en réjouis.
Oui, mais vous voyez le problème. Ils sont sous-représentés. Il faut les représenter.
Mais
peut-on en faire des personnages négatifs ? C'est tout ce que je veux dire. Puisque ce sont des représentants et puisqu'ils doivent être positifs, puisqu'il s'agit toujours de vaincre les préjugés. Donc comment voulez-vous faire d'un représentant d'une minorité un personnage négatif, un personnage ambivalent et pire encore un personnage odieux ?
Un personnage négatif.
Parce que
toujours le négatif.
Parce que sinon, c'est plus une œuvre. Sinon, c'est de la propagande.
L'œuvre n'est pas empreinte de négativité par essence.
Mais oui, mais il y a du mal dans le monde. Et si le mal doit être simplement incarné par des personnages, par le mal blanc de plus de 50 ans, il y a un problème pour l'art. C'est tout ce que je veux dire.
C'est pas parce que
je suis un mal blanc très vieux moi-même.
Le mal n'est pas forcément dans ce qui n'est pas blanc et dans ce qui n'est pas mal blanc. Peut-être, c'est comme ça qu'on pourrait inverser votre question. Et puis d'autre part, je voulais vous dire que qui oblige un ou une artiste à se sacrifier sur l'autel de la productivité des tuyaux qui lui permettront de fabriquer son produit. Vous qui êtes un grand amoureux de Hannah Arendt, elle a écrit un livre en 1960 qui s'intitule « La crise de la culture ». Où elle expliquait déjà qu'effectivement une partie de la culture était annexée par des moyens de productivité pour assoupir notre imaginaire. Mais aucun artiste n'est obligé ni contraint de sacrifier à ces demandes qui lui sont faites pour pouvoir produire à flux tendu. Un artiste peut toujours refuser ce qui lui est proposé et continuer à créer.
Produire à flux tendu, peut-être pas, mais pour avoir une chance d'obtenir un Oscar, par exemple, il faut répondre à un certain nombre de critères qui sont beaucoup plus idéologiques, artistiques, si j'en crois précisément
Oscars,
la recommandation.
C'est une énorme machine capitalistique qui présuppose des tas de demandes de la part des producteurs qui sont, comme on le sait, pas indépendants. Donc comment reprocher aux Oscars de demander du politiquement correct? Si les Oscars le font pas, qui le ferait?
Mais
un artiste indépendant aux États-Unis peut continuer à un cinéaste, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment des cinéastes indépendants aux États-Unis qui nous proposent leur rapport au monde dans des circuits d'art et d'essai, et continuer à pouvoir exister, à offrir son rapport au monde. Simplement, il l'offrira pas.
Ah, je vous entends plus. Je n'entends plus Laura Adler.